session sur le jugement de sagesse par le père Philippe à Saint-Jodard, le 9 avril 1988.
J'avais hésité de vous donner un cours aujourd'hui, hein, parce que c'est pas normal, on est encore dans la semaine de Pâques, et normalement, la semaine de Pâques, c'est 24 de cours, comme la semaine sainte aussi, un peu. Mais comme il y a toujours cette question du jugement de sagesse, à essayer de comprendre, c'est un petit peu ce qu'on va voir ensemble. Alors on pourra faire peut-être encore un cours cet après-midi, si ce n'est pas trop fatigant pour vous. Enfin, vous devez quand même être un peu reposé. Après la semaine sainte, il y a eu un petit repos quand même. Et alors quand on est reposé, on a une soif d'entrer plus avant dans le mystère de Dieu. Et dans le mystère de la sagesse de Dieu. Il faut comprendre que toute la philosophie, tout l'effort qu'on fait au plan philosophique, or, la foi ne détruit pas la nature. C'est ça qu'il faut bien se dire, hein. La foi permet à notre nature humaine d'aller jusqu'au bout de ses exigences. Si on est vraiment croyant, c'est ce qu'on doit croire. Dire que la foi met des ornières, des limites à l'épanouissement de notre nature humaine, c'est une mauvaise conception de la foi. Vous voyez la différence avec les traditions? Là, on voit tout de suite la différence. Les traditions, si elles ne se renouvellent pas tout le temps, peuvent devenir des ornières. Je parle de la tradition religieuse, pas du mystère de la tradition, parce que le mystère de la tradition est toujours relié à la foi, est toujours relié à l'espérance, est toujours relié à la charité, le mystère de la tradition. Et quand on dit deux sources de la révélation, la parole de Dieu et la tradition. Le mot tradition prend des significations tellement différentes qu'il faut être très très précis quand on parle de tradition. Il y a un mystère de tradition. Marie garde dans son cœur la parole de Dieu, la bonne terre. La bonne terre est un mystère de tradition. Où vous trouvez la bonne terre? Elle est dans votre cœur, ce qu'il y a de plus profond en vous. Ça, c'est la bonne terre qui garde la parole de Dieu et qui fait que la parole de Dieu en vous peut porter tous ses fruits. Tant qu'on est sur la terre, on ne peut pas dire « je suis le dernier moment de la tradition ». Vous savez, ce qu'il y avait il y a quelques années, il y a eu une exposition au Musée de l'Homme, au Trocadéro, une exposition sur l'évolution. C'était assez étonnant. C'était plein d'astuces. Et alors, quand on quittait, il y avait une grande glace qui faisait qu'on se regardait. Dernier moment de l'évolution. C'est assez astucieux, plein d'humour, hein. Parce que si on est un petit peu intelligent, c'est drôle d'évolution, d'aboutir à moi. Celui qui n'avait pas assez d'humour, il disait « Oh oui, c'est bien, c'est bien. » Vous voyez, c'est quand même intéressant de voir qu'il y avait eu ce petit bout d'astuce non scientifique, c'est bien évident, non scientifique, mais très humain. Ça aboutissait, c'était parti du crapaud, puis ça aboutissait au Parisien ou à la Parisienne. Sûr, quel était le dernier moment d'évolution. N'est-ce pas ? Parce que ça ne peut pas être autrement. Paris, la ville des Lumières, donc c'est la ville de l'évolution ultime et dernière. Je dirais transposer un peu, n'est-ce pas ? Nous sommes, chacun d'entre nous, le dernier moment de la tradition. Dans la mesure, hein, comprenez bien, dans la mesure où vous vivez le mystère de la foi dans le Christ et dans la maternité divine de Marie. C'est très vrai, la tradition ne s'est pas arrêtée à Marie. La tradition continue dans l'Église. Et donc, elle est actuelle. Et donc, chacun d'entre nous, nous sommes, on dirait, l'actuation ultime du moment de la tradition. Mais faisons attention, pas tout ce qui est en nous. Parce qu'en nous, il y a les conséquences du péché originel. Et les conséquences du péché originel ne sont pas l'ultime moment de la tradition. Vous comprenez bien. Qu'est-ce qui est l'ultime moment de la tradition, vous ? C'est ce qui est actué actuellement par Jésus et par Marie, dans l'Église. C'est ça qui est très beau, du reste. Et c'est très vrai que ça nous donne à chacun d'entre nous une capacité divine d'interpréter l'Écriture, puisque nous portons la tradition. Elle est en nous, et elle est en dehors de nous. La tradition, c'est tout ce que l'Église a vécu sous le souffle de l'Esprit-Saint. Et nous sommes l'Église, et nous sommes ce dernier moment de l'Église. Et cette tradition nous permet d'être la bonne terre qui reçoit la parole de Dieu, et qui la reçoit pour que la parole de Dieu puisse fructifier, puisque c'est le propre de la bonne terre. Et donc, chacun d'entre nous, nous sommes pris par cela. Alors, la foi vivante qui ne regarde pas en arrière, mais qui est présente, qui nous met en présence de Jésus, en présence de Marie, en présence de tout ce que l'Église a vécu, tout ce que l'Église a vécu divinement. La tradition, la foi vivante dans la tradition, respecte pleinement tout ce qu'il y a d'humain en nous. Vous voyez, quand saint Augustin disait « toute vérité est catholique », je peux dire que tout ce qu'il y a d'humain en nous demande d'être transformé par la grâce. Alors, c'est important de voir jusqu'où notre intelligence livrée à elle-même. Et quand je dis livrée à elle-même, c'est-à-dire, non pas s'emballant n'importe où, mais livrée à elle-même dans la recherche de la vérité. Jusqu'où notre intelligence livrée à elle-même dans la recherche de la vérité peut-elle aller ? Autrement dit, où se termine notre enquête philosophique. Elle se termine dans une contemplation. Et cette contemplation implique un regard sur l'homme, sur chacun d'entre nous, sur notre personne, sur ce que nous sommes profondément. Ça, c'est très important, parce que c'est par là que je peux saisir comment la philosophie va de fait assumer tout ce que le néoplatonisme a charrié d'opinion, de vérité, tout ce que l'existentialisme récent lui aussi a charrié d'opinion, tout ce que l'ontologisme, qui dépend toujours un peu du néoplatonisme, a charrié de vérité. Alors, je m'explique pour que vous compreniez bien. Dans l'ontologisme, dans le néoplatonisme, dans l'existentialisme, qu'est-ce qu'on regarde? Puisque l'existentialisme est une forme d'ontologisme. On regarde concrètement l'homme dans sa dimension ultime. L'homme lié à Dieu. L'homme rencontrant le divin. L'homme portant le divin. Vous voyez? Quand vous voyez dans Plotin l'Ennéade cinquième, hein, il ne faut jamais oublier. Il faut la relire de temps en temps. Je ne sais plus laquelle, c'est la cinquième, mais je pourrais vous donner la précision, mais c'est une Ennéade merveilleuse. Quand Plotin dit « Pourquoi es-tu distrait ? Pourquoi tu oublies ce qu'il y a de divin en toi ? Ce qu'il y a de divin en nous, est-ce que nous le découvrons tout de suite ? Non. Pour un néoplatonicien, on le découvre tout de suite. Vous voyez l'ontologisme ? Vous voyez dans la lumière de Dieu. Découvrir le divin en nous, c'est dans la lumière de Dieu. Je ne peux pas découvrir le divin en moi sans la lumière de Dieu, parce que pourquoi j'appelle divin ? Quand vous pensez, quand vous aimez, vous n'allez pas dire c'est du divin. Je pense, j'aime. Si j'aime un ami, cet ami n'est pas mon Dieu. Donc cet amour à l'égard de mon ami n'est pas divin, il est humain. Mais si je découvre Dieu et que j'aime Dieu, cet amour devient divin. Donc pour pouvoir dire que c'est divin, il faut découvrir déjà Dieu. Et Plotin dit tout de suite, comment se fait-il que tu oublies ce qu'il y a de divin en toi ? C'est très beau ça. Mais en même temps, on voit tout de suite la difficulté. Je peux dire ça du côté de la foi. En croyant, je peux le dire, mais pas en philosophe. C'est une connaissance ultime que j'ai de moi-même, dans la lumière de Dieu. Dans la lumière de Dieu, je peux chercher ce qu'il y a de divin en moi. Je crois que c'est ça le jugement de sagesse. Chercher tout ce qu'il y a de divin en moi. Qu'est-ce qu'il y a de divin en chacun d'entre nous ? Découvrir le divin en nous. C'est très beau, du reste, ça. C'est merveilleux, en définitive, c'est ça qui est intéressant au point de vue philosophique. Qu'est-ce qu'il y a de divin en moi ? Qu'est-ce que l'homme peut découvrir de divin en lui ? Une fois qu'il a découvert l'existence de l'être premier, une fois qu'il a découvert le grand problème de la création, tel que les traditions religieuses nous le donnent, il faudra y revenir un de ces jours, parce que à Currières, il y a un frère que j'aime beaucoup, le frère, il s'appelle Agapetos, comment voulez-vous ne pas l'aimer, n'est-ce pas ? Et ce frère, je le connais de très vieille date, parce qu'il est à la fois genevois, américain, un peu français. Alors ça fait une petite synthèse assez curieuse. Il a fait toutes ses études de maths en Amérique. Il est très fort, point de vue scientifique, point de vue matheux, de tous les grades. Et puis il est entré à Bethléem. Et alors, il reçoit de temps en temps les derniers livres au point de vue mathématique. Il m'a montré les derniers qu'il avait reçus d'Oxford. C'était quelqu'un d'américain qui enseigne à Oxford. Et le livre est intitulé « La création ». Et ce livre, dans la préface, c'est dit « Je veux être un rationaliste militant ». Je ne sais pas comment ça se dit en anglais, mais ça se dit « rationaliste militant ». C'est comme ça qu'il me l'a traduit. Je trouve ça extraordinaire. Vous voyez, je croyais que le rationalisme avait pris un grand coup dans l'aile et qu'il avait du plomb dans l'aile. Eh bien, il renaît. Militant, c'est politique. Hein, vais être un socialiste militant, je vais être un RP militant, les élections, mais que tout le monde est militant, sauf les religieux. Être militant, rationaliste militant, ça en dit très long, ça. Hein? Bien, ce livre est sur la création pour montrer que la création s'explique sans uniquement scientifiquement, sans du tout faire appel à un être transcendant. Ça, c'est un mythe. Le monde s'explique par lui-même, dans l'immanence même du monde. C'est extrêmement intéressant, vous comprenez, au point de vue philosophique. Je crois que nous devrions relever le gant en montrant toutes les erreurs qu'il y a dans une chose comme ça. Parce que c'est, me dit-il, le livre de formation pour tous ceux qui font des études supérieures. La nouvelle scolastique, positiviste, rationaliste, militant. Et ça touche le problème de la création. Oui, laïciser la création. C'est-à-dire que la création, comme telle, devienne tout simplement un objet scientifique. Plus besoin de dire que la tradition est une donnée de tradition religieuse. C'est un mythe. Quand on dit que c'est une tradition religieuse, c'est un mythe. La science peut l'expliquer. C'est intéressant pour tâter le pouls, comprenez, de ce que représente le rationalisme militant dans ses ultimes exigences. Ce qui nous montre l'exigence d'autant plus grande d'aller jusqu'au bout, au plan philosophique, d'une métaphysique, et d'une métaphysique qui aboutit à la découverte d'un être premier, dans cette lumière, reprendre le problème de la création. Et dans la lumière de la création, contempler Dieu et comprendre ce qu'il y a en homme de divin. Je crois que ça, c'est très très important pour nous. C'est capital. Vous voyez, toute la scolastique, un peu décadente, n'abordait plus ces problèmes. Alors, c'est le néoplatonisme qui l'a emporté, parce qu'il parlait du divin qu'il y a dans l'homme. Nous pouvons parler du divin qu'il y a dans l'homme, mais dans la lumière de la création. Et dans la lumière de la création, nous devons essayer de découvrir ce qu'il y a de divin dans l'homme. Au plan philosophique, montrer que l'homme, philosophiquement parlant, ne peut pas se comprendre pleinement d'une manière ultime, comprenons bien, sans cette référence religieuse, sans ce regard religieux, sans ce jugement de sagesse. Alors, dans ce jugement de sagesse, nous avons vu l'année dernière et l'année précédente, parce que c'est très grand de tout reprendre dans le jugement de sagesse. Tout ce qu'on voit au point de vue de l'analyse philosophique, dans la première recherche de la voie d'invention, dans la voie de recherche, est repris dans une lumière de sagesse. Autrement dit, si vous voulez, pour que vous voyez bien, les deux dimensions qui sont toujours présentes à notre recherche. La dimension de l'ordre génétique, l'ordre de la recherche. Il y a un premier dans l'ordre génétique. Quelle est votre première connaissance intellectuelle ? Quel est le point de départ de l'éveil de la vie intellectuelle en vous? Je crois qu'on doit dire que c'est une connaissance symbolique. Vous n'avez pas tout de suite une connaissance métaphysique, hein? Je ne crois pas. Je ne crois pas que dans le berceau, vous avez eu des intuitions métaphysiques. Et que subitement, vous avez dit « Ah, l'être !» Non, je ne crois pas. À moins que vous étiez un petit génie métaphysique. Je ne crois pas. Et même, j'aurais peur. Un gosse qui dirait ça, le premier mot qu'il dit « l'être !» Le premier mot qu'il dit, c'est « maman, papa ». J'aime mieux ça. C'est la manière de saisir l'être. Hein. C'est très maternel, l'être. Dans la première saisie génétique, l'être se donne sous cette forme maternelle. C'est du reste très beau de voir ça, que la métaphysique, au début, est maternelle. Elle l'est moins quand on commence à analyser ce que c'est que l'être. Parce que l'être n'est ni maternel ni paternel. Hein. Vous n'avez pas vu beaucoup l'aspect maternel de l'être en cherchant ce que c'est que la substance. Moi, je ne crois pas. Bien qu'il y ait un lien, si ma première connaissance intellectuelle et symbolique, et que dans le symbole, la première connaissance que le gosse a, c'est de sa mère, le premier génétique, c'est ça, connaissance affective de la source de paix, d'abandon, la source qui nourrit, la source auquel on peut se reposer, on peut se reposer dans les bras de sa mère. C'est quand même une connaissance, ça. Une connaissance affective. La première connaissance de ce qui est, jugement d'existence. Il est présent dans l'affectivité. Et il est présent dans le symbolisme que le gosse a de la connaissance vis-à-vis de sa mère. Il y a donc une première connaissance symbolique, affective, et qui a un caractère de lien filial à l'égard de la mère. La mère est plus proche de l'enfant que le père. Et donc l'être a une gangue, hein, comprenez bien, un aspect symbolique maternel. C'est curieux. C'est intéressant du reste de bien comprendre ça. Premier moment, il y a quelque chose de maternel. Ça, c'est le premier génétique. Puis progressivement, je distingue l'être et le devenir. Je crois que ça, c'est très, très important. Je ne l'ai pas fait dans le berceau, du moins pas pour moi. Vous, je ne sais pas, vous êtes plus avancé, puisque vous êtes plus évolué, alors c'est peut-être arrivé dans les berceaux modernes. Première distinction, l'être et de le devenir. C'est possible, c'est possible. Rien n'est impossible à Dieu, donc c'est possible qu'il puisse y avoir cette distinction dans le berceau. Pour les très, très développés, super doués, distinction de l'être et du devenir. À quel moment avez-vous fait la distinction de l'être et du devenir? À quel moment, hein, posez-vous la question? Je crois que vous ne pourrez pas répondre. C'est pour ça que vous vous dites poser la question. J'ai toujours posé la question à des Freudiens que je connais. On dit qu'il ne pouvait pas. Je dis, voilà les limites de la psychanalyse. Hein. C'est une distinction capitale. Distinguer l'être et le devenir. Une distinction qu'il faut tout le temps revenir. Et vous ne savez même pas à quel moment. Très ennuyeux. Je ne crois pas que c'est dans le berceau. Je ne crois pas que c'est tout à fait au début. Je crois qu'on peut avoir l'âge de raison sans avoir fait la distinction de l'être et du devenir. Je crois. On a fait la distinction du bien et du mal avant l'être et le devenir. C'est curieux, hein? Et on a fait la distinction du bien et du mal. L'âge de raison, c'est ça. D'avoir distingué le bien et le mal. La distinction de l'être et du devenir, hein, pour les Grecs, présuppose une révélation. quand même assez curieux, ça, et assez intéressant, Parménide. Tellement cette distinction implique un éveil profond de l'intelligence. Et pour nous, post-hégéliens, parce qu'au plan philosophique, c'est pas post-Vatican II, pour la philosophie, c'est post-hégélien, égal à marquer d'une façon très forte la culture philosophique, pas seulement allemande, mais mondiale. Post-hégélien, on est marqué par ça. Or, Hegel ne veut plus la distinction de l'être et du devenir. Elle est dépassée. Elle est complètement dépassée. Et c'est nous-mêmes qui la dépassons. Et donc, après Hegel, la distinction être et devenir, j'allais presque dire, va réclamer une super révélation, si j'ose dire. C'est très difficile, après Hegel, de redécouvrir la distinction être et devenir. Vous voyez, toujours, tout le monde sait que la rééducation est beaucoup plus difficile que la première éducation. Toujours. C'est beaucoup plus difficile. La première éducation est simple, la seconde éducation, la rééducation est très très difficile. Quand il faut vraiment rééduquer. Rééduquer des gens qui se sont drogués, rééduquer des gens qui ont mené une vie impossible. Il faut vraiment, c'est très difficile. Eh bien, il y a une rééducation intellectuelle, métaphysique, post-hégélienne, qui est très difficile. Pour un Italien, c'est post-croce. Et c'est très difficile de retrouver ce point de vue. Pour nous, c'est post-Hamelin. Redécouvrir, au-delà de Hegel, la distinction de l'être et du devenir. S'il n'y a pas cette distinction, ce n'est pas la peine. Plus de métaphysique. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a plus de métaphysique, hein. Parce que la distinction être et devenir, c'est la porte d'entrée au point de vue métaphysique. Redécouvrir ce que c'est que, dans toute sa limpidité, ce que c'est que le jugement d'existence. Et le jugement d'existence, une fois qu'on l'a découvert, si on l'a vraiment découvert, on comprend la distinction entre l'être et le devenir. On comprend qu'il y a là. Une fois que vous avez fait la distinction de l'être et du devenir, vous pouvez comprendre que l'être en acte est premier par rapport à l'être en devenir. Tandis que lorsque vous restez dans le devenir, dans le mouvement, ce qui est premier, c'est la puissance. Vous voyez ? Ayez bien ça, autrement vous ne comprenez pas. Donc, premièrement, le premier dans l'ordre génétique. Le premier dans l'ordre génétique. Connaissance symbolique. Connaissance affective. La mère. Elle est première génétiquement, cette connaissance. Et il y en a qui n'en sortent jamais. Le cordon ombilical de l'esprit n'a jamais été coupé. Il n'a jamais à dépasser cette connaissance affective, filiale à l'égard de la mère. C'est très curieux, ça. Vous arrivez à découvrir ensuite le point de vue de la distinction être-devenir. À travers le devenir, vous découvrez l'être. Et en découvrant l'être, vous découvrez que l'être en acte est premier. Voilà l'autre premier, l'être en acte. Tandis que dans le devenir, l'être en puissance et premier. Vous voyez cette chose curieuse, hein ? La découverte du devenir et de l'être permet de découvrir que dans l'être en puissance, source du devenir, tout devenir implique l'être en puissance. Et dans l'être en puissance est premier, justement, la puissance. La matière. La mer, l'enveloppant, le premier dans l'ordre génétique, le premier dans l'ordre de nature. Nous disons tout de suite cette distinction, et c'est très bien, le premier dans l'ordre génétique et le premier dans l'ordre de nature. Mais il faut voir tout ce que ça implique. Vous ne pouvez parler du premier dans l'ordre de nature que si vous avez fait la distinction de l'être et du devenir. Et en faisant la distinction de l'être et du devenir, vous aboutissez au premier dans l'ordre de l'être, c'est-à-dire l'être en acte. C'est le premier dans l'ordre de nature. Et l'être en acte vous conduit à Dieu. L'être parfait. Le premier, c'est Dieu. Donc, c'est l'être en acte. Le premier dans l'ordre de... Et en définitive, Dieu. En définitive, Dieu. Alors... Vous comprenez que maintenant, je suis en face d'un ordre nouveau à partir de Dieu, à partir de l'être premier, à partir du Créateur. Je peux regarder l'homme. L'homme existant. L'homme concret. Je suis. Dans la lumière du Créateur, vous regardez ce que vous êtes. Vous voyez comme c'est curieux, hein, et c'est intéressant à voir ça. C'est que toute la partie, j'allais dire, d'analyse, toute la partie philosophique d'analyse, de recherche, l'ordre génétique, c'est un ordre de recherche. J'analyse. J'analyse pour rechercher. Dès que je suis dans la recherche, j'analyse. Et dès que je suis au-delà de l'analyse, je suis dans ce que j'appelle le jugement de sagesse. Je ne dis pas un jugement synthétique. Vous savez ce que dit Kant, hein ? Les jugements analytiques et les jugements synthétiques. C'est toujours important de voir ça. Dans ce jugement de sagesse, ce n'est pas un jugement synthétique, c'est un jugement de sagesse. Pourquoi ? Parce que c'est un jugement à partir d'une personne qui existe, d'une réalité qui existe. Tandis que la synthèse, ce n'est pas à partir d'une réalité qui existe. C'est moi-même qui fais la synthèse. La synthèse reste immanente. Tandis que dès que je découvre un être premier, cet être premier, il me transcende, il me dépasse infiniment. Et donc, j'ai ici quelque chose de nouveau, quelque chose de tout à fait nouveau. Ce n'est plus l'ordre génétique, ce n'est plus l'ordre de nature, c'est l'ordre de sagesse. Il faut toujours bien distinguer ces trois aspects. Si on ne les distingue pas, on fait une espèce de cafouille complet. Mais l'intelligence humaine doit pouvoir aboutir en dernier lieu à ce jugement de sagesse qui présuppose la contemplation. Le terme ultime, c'est la contemplation qui est au-delà de la recherche, au-delà de l'analyse, c'est la contemplation. Dans la contemplation, il peut y avoir un jugement de sagesse par rapport à l'homme, par rapport à « je suis ». C'est très important de bien comprendre ça. Vous voyez ? donc l'ordre génétique, où je donne un certain ordre dans la recherche, et je cherche le premier dans l'ordre génétique. Si je ne connais pas le premier, je ne peux pas connaître l'ordre. Puis je cherche, la découverte de la distinction entre devenir et être me permet de découvrir que l'être en acte est premier par rapport à l'être en puissance. Donc j'ai le premier dans l'ordre de la nature. L'acte est parfait, il est premier. L'être en acte est premier par rapport à l'être en puissance, alors que l'être en puissance est premier génétiquement. Et puis alors j'ai une troisième dimension au plan philosophique, la dimension de jugement de sagesse. Et le jugement de sagesse a ce privilège de tout regarder dans la manière existentielle. Dans un langage heideggerien, je dirais existentiel. C'est-à-dire le comment. Le comment de l'homme. Comment je suis. Alors, vous voyez bien que c'est à partir de la contemplation de l'être premier. Cette contemplation de l'être premier, je vois d'abord sa simplicité. Dieu existe, le comment de Dieu, la manière d'exister de Dieu. La contemplation se fait manière d'exister, manière d'être de Dieu, la simplicité. Dieu existe comme un être absolument simple. Dans la contemplation de la simplicité de l'être premier, je vois la complexité première, fondamentale du « je suis ». C'est ce que Heidegger appelle les fêlures métaphysiques. Je suis un être fêlé. Il y a une complexité en moi. En chacun d'entre nous, nous ne sommes pas simples. Nous sommes complexes. Quelle est la complexité radicale en nous? Distinction entre essence et exister. Il y a quelque chose en moi qui demeure toujours en potentialité. Je suis un être qui, laissé à lui-même, retomberait dans le néant. Je suis donc un être qui est tout le temps dépendant d'un autre. Ça, c'est la première contemplation du jugement de sagesse. Oui, il y a en moi, en chacun d'entre nous, il y a quelque chose qui vous apparente au non-être. Vous voyez, quand l'existentialisme définit l'homme ordonné à la mort, c'est pas si bête. Il y a en moi quelque chose qui m'apparente au non-être. Mais mon exister actuel me fait sortir de là, j'existe, je suis. Mais je suis en portant en moi cette complexité radicale, puisque il y a en moi une potentialité. Distinction radicale entre ce que la scolastique dira est censé exister. Mais j'aime mieux dire qu'il y a en nous une potentialité radicale pour bien comprendre ce que c'est que cette distinction. En moi, l'être n'est pas acte pur. En moi, l'être est complexe. C'est la première contemplation que j'ai dans le jugement d'existence, dans le jugement de sagesse. À partir de la simplicité de Dieu, je vois que je suis un être qui reçoit tout de l'être premier. Mon exister est participé. C'est le premier jugement de sagesse que j'ai sur moi. Mon exister participait. Je suis un être radicalement dépendant. Et c'est très beau, ça. Parce que ça me fait comprendre que si je suis un être radicalement dépendant et que je veux être dans la vérité, je dois le reconnaître. Et si je le reconnais, je vis alors dans la reconnaissance de cette dépendance et je comprends comment l'adoration devient l'attitude fondamentale de l'homme, de la créature. Et comment l'attitude religieuse est fondée dans le premier jugement de sagesse. Et c'est un jugement de sagesse. Dans la lumière de la simplicité de Dieu, je peux tout de suite comprendre que je suis un être participé et donc complexe, d'une complexité radicale. J'ai en moi une saveur de non-être. Et c'est vrai, il y a une saveur de non-être en moi, une connexion avec le non-être. Et j'existe. Alors, toute la contemplation que j'ai sur Dieu me permet d'avoir un jugement sur moi. J'essaie de comprendre ensuite, au terme, si tu es arrivé là, qu'il y a en moi l'esprit. Et que mon esprit est fait pour connaître la vérité. Et que mon esprit est fait pour aimer. Je suis une personne qui a sur elle-même un pouvoir. Domina sui. Ce qu'on a appelé traditionnellement le libre arbitre. C'est dans un jugement de sagesse que je m'aperçois que la connexion de mon intelligence et de ma volonté me donne ce pouvoir particulier de dominer l'orientation de ma vie. Je peux m'orienter diversement. Je peux tourner le dos à mon Créateur. Je peux au contraire reconnaître cette dépendance à son égard. Il y a en moi ce qu'on a appelé le libre arbitre. Vous voyez, je crois que la notion du libre arbitre est une vision de sagesse. En analyse philosophique, je vois l'intelligence et la volonté. En théologie, saint Augustin a un livre sur le libre arbitre. Les stoïciens ont un peu parlé du libre arbitre. Je crois que c'est les stoïciens les premiers. C'est une vision de sagesse. Ce n'est pas une vision d'analyse, vous voyez ? C'est la vision qu'il y a en moi une domination à l'égard de mes différentes activités. Je domine mes activités, je peux m'orienter quand je veux. Qu'est-ce que ça veut dire, le libre arbitre ? Qu'est-ce que c'est que le libre arbitre ? C'est que, avant de poser un acte volontaire, il y a toujours une connaissance du bien vers lequel je tends. Et ce bien vers lequel je tends est où ? Un bien capable de me finaliser ou un bien qui est un moyen. Le bien qui est un moyen, je peux le choisir librement. Alors que le bien qui s'impose à moi comme une fin, je peux évidemment ne pas me laisser attirer par lui. Je peux donc suspendre mon acte. Je peux me détourner, penser à autre chose. Je vois que tout de suite, il y a en moi deux types de liberté. Une liberté fondamentale qui est ce fait que je peux poser un acte ou ne pas le poser. La scolastique appellera ça la liberté d'exercice. C'est très important de voir que cette liberté est fondamentale. Je peux poser l'acte ou ne pas le poser. Et la liberté de choix, c'est à l'égard des moyens. Au sens très très strict, je ne choisis pas ma fin, je la découvre. Au sens très strict, voyez, je ne choisis pas le bonheur, je le découvre. Où est-il ? Donc, il y a une liberté d'exercice et une liberté de choix. Et je vois que tout de suite, dans une lumière de sagesse, je vois que Dieu crée librement la liberté en Dieu. Dieu est un être qui est libre par rapport à l'acte créateur. Dieu n'a pas du tout créé, forcé de créer. Et donc, une liberté en Dieu. Quel est le reflet de la liberté qui est en Dieu au plus intime de moi-même ? C'est le lien qui existe entre l'intelligence et la volonté. Grâce à mon intelligence, je suis capable de discerner un bien qui s'impose à moi comme un absolu. Et un bien, au contraire, qui est relatif à ce bien absolu. Je peux donc choisir les moyens en vue de ce bien. En Dieu, la liberté est d'un caractère tout à fait différent. Dieu est libre par rapport à tout ce qui n'est pas lui. D'une liberté souveraine. Liberté absolue. Dieu peut, comme il le veut, poser un acte créateur ou ne pas le poser. Et Dieu est à lui-même son propre maître. Tandis que ma liberté est double. Si ma liberté est double, ça prouve que ma liberté est limitée. Et c'est là où il faudrait critiquer Descartes. Parce que Descartes considère que ma liberté et celle de Dieu sont uniformes. Que c'est par la liberté qu'il y a quelque chose de commun entre Dieu et moi. Et ceci, c'est très grave. Vous voyez bien au plan philosophique, parce que c'est oublier la transcendance absolue de la liberté de Dieu. Et que la liberté de Dieu se manifeste en premier lieu à travers ce fait que Dieu, comme créateur, est absolument libre. Mais il y a en moi, au plus intime de moi-même, j'en ai l'expérience. Et on l'a étudié en éthique et en philosophie du vivant. Il y a en moi comme un reflet de la liberté de Dieu, comme une participation de la liberté de Dieu. Tout ce qui est participé est double, n'est jamais simple. Et donc, à l'intérieur de la liberté, vous retrouvez une dualité. Ma liberté n'est pas simple, alors que la liberté de Dieu est simple, puisque tout ce qui est en Dieu est simple. Tandis qu'en moi, il y a une dualité, la première dualité, potentialité, acte. essence, existence, je retrouve au niveau de la liberté quelque chose d'analogue. La liberté d'exercice, la liberté de choix. Il faudrait essayer de pousser un peu l'analogie. Ce serait très intéressant, vous voyez. Je vous la pose pour que vous y réfléchissiez. Voyez, au niveau de l'être, au niveau de ce qui est, vous avez donc en Dieu la simplicité. Et cette simplicité, c'est Dieu et l'être subsistant. En lui-même. L'ipsum esse subsistens. Il est l'être, l'exister, qui subsiste en lui-même. L'exister qui subsiste en lui-même. C'est ça la simplicité. Dans le « je suis », il y a, dans la lumière de la simplicité, tout de suite la distinction entre ce qui est en acte et ce qui est en puissance. Les deux sont dans le « je suis ». Donc, quelque chose qui en moi tend vers le néant, vers le non-être, et quelque chose qui, au contraire, victorieux du non-être. Il y a les deux en moi. Puisque Dieu, vu du côté de l'esprit, en Dieu, l'esprit et l'être ne font qu'un. Mais l'esprit de Dieu implique une liberté absolue. Dieu est l'être souverainement libre. Et cette liberté de Dieu se manifeste pour moi dans la création. Il n'y a rien de contraignant en Dieu. Donc c'est une liberté absolue, c'est une liberté absolument simple. C'est très beau du reste à contempler. Et cette liberté se manifeste dans la création. Donc si j'existe, ça relève d'une gratuité absolue de Dieu. Philosophiquement parlant, je peux et je dois l'affirmer. Ça, la vérité, c'est que je relève d'une gratuité absolue de Dieu. Donc la liberté absolue, cette liberté en moi, dans le « je suis », je vois tout de suite qu'elle est complexe. Vous voyez, la complexité au niveau de l'être, la complexité au niveau de l'esprit. La complexité au niveau de l'esprit qui se voit dans la liberté. Je dis liberté d'exercice, liberté de choix. J'ai deux types de liberté. Ces deux types de liberté montrent bien que ma liberté n'est pas simple, puisqu'elle se réalise de deux manières différentes. Y a-t-il, je pose la question, y a-t-il une analogie entre cette complexité au niveau de l'être et cette complexité au niveau de l'esprit? Ça serait très intéressant à creuser. Parce que toujours, hein, les deux se tiennent en Dieu, être, et esprit ne font qu'un, puisqu'il est absolument simple. En vous, en moi, Être et esprit ne font pas un. Je ne suis pas esprit dans tout mon être. Je crois que vous en avez l'évidence, j'espère. Vous n'êtes pas esprit dans tout votre être. Et voyez pourquoi votre corps n'est pas l'esprit, même s'il évolue beaucoup. Même si vous tendez à perdre vos dents et devenir un bec d'oiseau pour être plus évolué, s'il y a des ailes qui poussent, jamais votre corps ne sera l'esprit. Donc en vous, il y a une dualité fondamentale entre la matière, le corps, et l'esprit. Cette dualité. Par le fait même, votre esprit n'est pas substantiel. Vous n'êtes pas substantiellement intelligent. Je regrette. Vous ne l'êtes pas substantiellement. Vous l'êtes par moments intelligent. Par d'autres moments, le corps l'emporte quand vous mangez. Parce que vous avez très très faim. Ce n'est pas à ce moment-là que vous allez avoir des intuitions métaphysiques. Vous vous jetez sur un morceau de pain parce que vous avez très faim, ou un morceau de gâteau, c'est encore mieux. Quand vous avez très faim, c'est ce qu'on fait. Et à ce moment-là, vous ne pensez pas. Quand vous dormez, vous ne pensez pas. Peut-être que vous imaginez, vous rêvez, mais vous ne pensez pas. Donc, en vous, le corps et l'esprit font que vous n'êtes pas substantiellement esprit. Votre âme spirituelle est bien substantielle. Hein ? C'est tout de suite l'objection que vous allez dire. Mais votre esprit, qui est radicalement présent dans votre âme spirituelle, ne se développe pas d'une manière substantielle. Vous avez des opérations intellectuelles, des opérations affectives, mais vous n'êtes pas substantiellement esprit. Ça, je crois qu'on peut le comprendre. Par le fait même qu'il y a cette dualité, l'esprit va se développer dans la dualité intelligence et volonté. Il y a une dualité dans mon esprit. Mon esprit n'est pas simple. Intelligence et volonté. Et parce qu'il y a une dualité dans mon esprit ne sera pas radicalement libre. Vous voyez le libre arbitre qui caractérise ma manière d'être libre. Je suis libre comme quelqu'un qui a un libre arbitre. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que Dieu est libre comme quelqu'un qui a un libre arbitre. Le libre arbitre est typiquement humain et relève justement du fait qu'en moi, dans mon esprit, il y a deux orientations, l'intelligence et la volonté. Et si en moi, deux orientations, intelligence et volonté, le lien entre les deux va apparaître. Le lien entre les deux va apparaître dans le libre arbitre. Le libre arbitre est source d'actes libres. Et le libre arbitre implique intelligence et volonté. Et puisque la source de l'acte libre est double, il est normal de retrouver deux caractères particuliers de la liberté. Une liberté d'exercice, une liberté de spécification. Alors il faudrait préciser comment intelligence et volonté, faisant la composition du libre arbitre, on va retrouver ces deux modalités de la liberté particulières. Et alors, est-ce qu'il y a un lien au plan philosophique, dans la lumière de sagesse, entre la complexité dans l'ordre de l'être et la complexité dans l'ordre de l'exercice, dans la complexité dans l'ordre de l'esprit.